Merci Rita de nous avoir lu ce passage pour nous ce matin. Avant cela, je vous invite à reprier ensemble. Prions. Notre Père, nous te remercions de nous avoir parlé dans ton Fils, dans ces jours qui sont les derniers. Sois avec nous ce matin par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions entendre cette voix encore à travers le livre d'Hébreux. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. En 1989, un vaisseau spatial de la NASA a franchi la frontière entre notre système solaire et l'espace profond. Sa mission consistait à effectuer des relevés atmosphériques d'autres planètes. Juste avant que le vaisseau spatial ne quitte notre système solaire, Carl Sagan, le célèbre astronome et scientifique coordinateur de la mission, il a demandé au vaisseau de prendre une dernière photo. L'image n'aurait aucune valeur scientifique, elle mesurait 0,12 pixels, et c'était un léger point de lumière bleue sur une énorme toile de fond noir. Vous savez ce que c'est ? C'était une petite photo de la planète Terre. Et Carl Sagan, il a fait référence à cette photo un peu plus tard, comme étant le point bleu pâle. Et il a déclaré ceci. Par rapport à cette photo, je vais vous lire une petite citation. Il a dit « Regardez ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies, et de doctrines économiques remplies de certitudes. Tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros, tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères, mères, enfants remplis d'espoir, inventeurs et explorateurs, tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire, de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une scène minuscule dans l'immense arène cosmique. » Fin de citation. Alors cette photo a soulevé de grandes questions pour Carl Sagan. Elle le fait pour nous aussi. Notre existence sur ce point bleu pâle a-t-elle un sens ? Quel est le but de ce monde ? Où va la vie ? J'aime bien cette autre citation de l'écrivain britannique Terry Pratchett qui dit ceci dans l'un de ses romans, j'ai mis la citation sur vos feuilles. « Si vous ne savez pas d'où vous venez, alors vous ne savez pas où vous êtes. Et si vous ne savez pas où vous êtes, alors vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, vous faites probablement fausse route. » Où va votre vie ? Est-ce que vous avez une réponse solide à cette question ? Pour certaines personnes, je sais que c'est une question passionnante. On aime bien penser à une vie de famille heureuse, à profiter de la retraite avec les petits-enfants, etc., etc. Pour d'autres, c'est une question qui évoque la peur, la dépression, le chômage, la crise de la quarantaine, la peur de mourir. Ma vie ne va nulle part, disent les gens. Et nous vivons dans une culture qui n'a pas de bonne réponse à la question de savoir où va la vie. On nous dit que l'humanité a évolué à partir d'une forme de vie primitive collée à un rocher interstellaire. Nous sommes venus de nulle part et nous ne nous dirigeons vers nulle part. On nous dit que l'humanité n'a pas de but. Oui, bien sûr, très peu de gens vivent comme si c'était vraiment le cas. Mais ils ont néanmoins ces croyances. D'autres cultures optent pour des raisons plutôt, des réponses plus ouvertement religieuses à la question de l'avenir de l'humanité. Elles parlent de karma, d'au-delà, ou même de paradis, un endroit où nous sommes assis sur des nuages, nous jouons de la harpe. Mais ce qui est triste, c'est que même pour ces personnes-là, une vie après la mort, ils ne sont pas sûrs d'y arriver. Et n'est-ce pas vrai que même les chrétiens qui savent qu'un avenir les attend n'ont parfois aucune idée de ce que ce sera, cet avenir ? Nous parlons de ciel, de gloire, de royaume de Dieu. Mais avons-nous la moindre idée de ce que cela signifie? Sommes-nous comme des personnes qui ont gagné les vacances ultimes, mais qui n'ont aucune idée de où se trouve la destination à laquelle elles vont? Si vous ne savez pas d'où vous venez, alors vous ne savez pas où vous êtes. Et si vous ne savez pas où vous êtes, alors vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, vous faites probablement fausse route. Le livre d'Hébreux a été écrit pour raviver l'espérance chrétienne. Et c'est parce qu'il a été écrit à un peuple qui faisait fausse route. Les lecteurs de ce livre étaient tout simplement des chrétiens comme nous. Ce sont des gens comme nous qui ont été sauvés par Dieu, mais qui ne sont pas encore arrivés à leur destination finale. Et pour l'instant, ils traversent le désert de ce monde, plein de dangers et de tentations. Et donc pour ces chrétiens vivant au premier siècle, la vie se révélait trop dure. Confrontés aux épreuves de la persécution et du péché, ils étaient tentés d'abandonner. Ils perdaient espoir. Et je me demande combien d'entre nous ressentent la même chose ce matin. Combien d'entre nous se sont demandé si le fait d'être chrétien en valait vraiment la peine? Combien d'entre nous ont conclu que face à la souffrance qu'on voit dans le monde, que Dieu n'est plus bon? Combien d'entre nous craignent que la mort ne soit que la fin de cette vie longue et parfois triste? Si tel est votre cas, je vous invite à méditer avec moi ces versets que nous venons de lire dans Hébreux 2. Parce que Hébreux 2 démontre que Dieu a préparé un avenir si merveilleux, si glorieux, qu'il fera chanter votre cœur. Hébreux 2, 5 à 18, a été écrit pour nous montrer que l'avenir que Dieu a préparé n'est rien de moins que des nouveaux cieux et une nouvelle terre, une nouvelle création tout entière. Et donc l'auteur, il appelle cette nouvelle création au verset 5 de notre passage, le monde à venir. Et il nous explique que c'est par la mort de Jésus-Christ que le chemin est ouvert pour que nous puissions y aller. Si nous croyons en Jésus-Christ, c'est vers là que la vie se dirige. Alors je vous propose de regarder ce passage en posant les trois questions que notre auteur, que je viens de citer, aimerait que nous posions. Voici nos trois points, nos trois questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous maintenant? Et où allons-nous? Première question, d'où venons-nous? Réponse, l'humanité a été créée pour diriger la création. L'humanité a été créée pour diriger la création. Hébreux 2 défend l'idée qu'il existe un monde à venir, que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons maintenant. Et l'auteur, il défend son point de vue en nous faisant remonter dans le temps. Il affirme que l'on ne peut pas comprendre le monde à venir sans comprendre celui-ci. Et il commence son argumentation en citant un psaume, le psaume 8. Parce que le psaume 8 est une autre réflexion biblique sur la vie, sur le point bleu pâle. Sauf que cette fois-ci, la personne qui parle n'est pas perplexe devant l'apparente petitesse de l'humanité. Non, elle s'en émerveille. Elle s'en émerveille. Regardons les versets 5 à 7 de Hébreux 2. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est le roi David qui a écrit ce psaume, et il observe la création. Il en a le souffle coupé. Il en conclut que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre au ciel comme un ange, mais il en a fait une créature pour vivre sur la terre. Il lui a donné deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux jambes, deux narines. Et nous, on pourrait penser que cela est tout à fait ordinaire. Mais ce n'est pas le cas de David, il s'en émerveille. Et David ne se contente pas simplement de regarder par la fenêtre aux autres êtres humains qui passent, mais il lit aussi sa Bible. Parce que le psaume 8 se réfère consciemment à Genèse 1, le récit de la création du monde. Verset 7 de notre texte. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. L'humanité est la couronne de la création de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit en Genèse 1 à 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme est fait pour avoir une relation spéciale avec Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un trait de l'humanité, d'une facette de notre personnalité, mais c'est ce que signifie être un être humain en tant qu'homme et femme. Nous avons été créés pour montrer Dieu au monde. Lorsque vous voyez un être humain, vous voyez quelque chose de Dieu. Aucun animal ne peut le faire. Aucun ange ne peut le faire. Mais c'est le couronnement de l'humanité, son plus grand honneur, être capable de connaître Dieu et d'être à son image. Et la citation du psaume, il se poursuit. L'auteur nous dit « Tu as tout mis sous ses pieds ». Dieu, il est le créateur et le maître de la création, mais il a placé l'homme dans ce monde pour diriger la création sous son autorité. Nous sommes couronnés de gloire et d'honneur en tant que porteurs de l'image de Dieu, et nous exprimons cet honneur en gouvernant le monde. Et cette expression « tout mettre sous ses pieds », ça nous renvoie à Genèse 1, 28 aussi, où Dieu dit « reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » L'humanité devait se multiplier et remplir la terre, c'est-à-dire qu'il y aurait davantage de porteurs d'image. Résultat, le monde serait soumis à la domination des êtres humains sous le règne de Dieu. Et lorsqu'on lit attentivement le récit de la création dans Genèse 1, on voit que l'humanité n'a pas été conçue pour vivre dans un club privé dans le jardin d'Éden. Non, Genèse 1 nous dit que nous devons remplir la terre. Et le psaume 8 dit que Dieu a soumis toute chose à l'homme, le monde entier. Et donc cela signifie que la création n'est pas complète tant que l'homme ne la soumet pas. La création dépend de l'homme en quelque sorte pour l'achever, pour la compléter. Et cette domination, c'est bien sûr, ce n'est pas l'œuvre d'un tyran, d'un dictateur, mais plutôt celle qui consiste à apporter l'ordre et la vie à la création, tout comme Dieu l'a fait en Genèse 1. Le premier homme et la première femme sont des serviteurs royaux, un roi, une reine, qui auraient des enfants, eux, qui auraient d'autres enfants par la suite. Et ainsi, toute la création serait remplie de la gloire de Dieu, la gloire du roi céleste lui-même. Réfléchissons un instant à ce que cela implique pour nous. L'humanité a été créée pour avoir une relation spéciale avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, à la dérive dans un vide dénué de sens. Non, quel que soit notre âge, notre ethnicité, notre statut professionnel, nous avons tous une grande dignité devant Dieu. Et l'homme a été créé pour avoir une relation spéciale avec la création. Nous avons un but donné par Dieu. Nous sommes faits pour diriger le monde. Et donc le fait que les gens veuillent réussir la vie, faire une différence dans le monde, cela n'est pas anormal, c'est normal. C'est ce que signifie être un être humain. Alors revenons à notre thème majeur. L'auteur de ce livre est en train de défendre l'idée qu'il existe un monde à venir, un avenir au-delà de la vie présente. Et l'auteur, il voit dans le psaume 8 que l'homme a été créé pour diriger le monde. L'auteur voit que le but pour la création était de la remplir de la gloire de Dieu. Mais il comprend aussi que l'homme n'a pas soumis le monde que Dieu a créé. En fait, le monde à venir n'a jamais existé. Verset 8 encore, « Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » D'où venons-nous ? L'humanité a été créée pour diriger la création. Quel honneur, quelle gloire! Mais avez-vous remarqué l'expression, la petite expression, pas encore? Parce que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et cela nous amène à notre deuxième question. Où sommes-nous maintenant? Où sommes-nous maintenant? Réponse, Jésus est en train de sauver des hommes et des femmes pour diriger une nouvelle création. Une nouvelle création. J'ai récemment regardé un film de science-fiction qui s'appelle Premier Contact. C'est l'histoire de 12 vaisseaux spatiaux qui débarquent sur Terre et l'humanité essaye de communiquer avec les extraterrestres dans les vaisseaux spatiaux. Et dans le film, quelqu'un se demande pourquoi ils ont envoyé 12 vaisseaux spatiaux sur Terre. Et un agent spécial américain, il répond tout simplement par ces mots qui donnent un peu à réfléchir. Il a dit, sur cette Terre, il n'y a pas un seul et unique leader. Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Le genre humain est brisé, divisé. Nous subissons le règne de la peur, du chagrin et de la mort. Nous avons besoin d'un leader, un leader mondial, international, qui peut nous sortir de ce pétrin. Et la réponse étonnante qu'on voit dans Hébreux 2, c'est que c'est Jésus, ce leader mondial. Remarquez la manière dont l'auteur change de sujet entre les versets 8 et le verset 9. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, c'est-à-dire l'humanité, l'homme. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc, l'auteur nous dit que Jésus est le véritable être humain, le véritable Adam, si vous voulez. Il est l'accomplissement du psaume 8 et de Genèse 1. En parfaite relation avec Dieu, il est couronné de gloire et d'honneur. Non pas parce qu'il a apprivoisé les animaux, non pas parce qu'il a eu des enfants, mais parce que... Comment est-ce que vous compléteriez cette phrase? Verset 9, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Jésus dirige la création en mourant. En fait, la mort de Jésus n'est pas contraire au projet de Dieu pour sa création que l'on voit dans Genèse 1, à savoir la multiplication de l'humanité et le remplissage de la terre. En fait, sa mort est l'accomplissement de ce projet. Verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Ce serait facile de sauter ce verset sans faire trop attention à ce qu'il dit. On voit que Dieu, celui par qui et pour qui et par qui toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Lorsqu'on a étudié Hébreux 1 en groupe de quartier, on a vu que Jésus est le fils qui a été conduit à travers la mort et dans la gloire. Il règne éternellement en tant que roi de l'univers. Donc Hébreux 1, c'est une célébration du Fils par excellence qui est entré dans la gloire. Et nous lisons maintenant que de nombreux fils sont conduits à la gloire par le Fils unique au verset 10. Et quelle est cette gloire? Quelle est cette gloire? Je pense qu'il s'agit certainement de la gloire qu'on a vue au psaume 8. La gloire de l'humanité en relation avec Dieu et la création. C'est la gloire pour laquelle Dieu nous a créés. La gloire du monde qui n'a jamais existé. Par sa mort, Jésus sauve des hommes et des femmes pour régner sur une nouvelle création. Bibliquement parlant, nouvelle humanité égale nouvelle création. Mais on se demande pourquoi Jésus devait-il mourir pour nous conduire à la gloire? Et ce qu'on va faire maintenant, on va parcourir les versets 10 à 18 très rapidement pour voir trois constats à titre de réponse. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Et la première chose qu'on voit, c'est qu'en tant que véritable être humain, Jésus est le pionnier de notre salut. Verset 10, l'auteur décrit Jésus comme l'auteur de leur salut. Et ce mot « auteur » pourrait être traduit par « pionnier ». Si vous ne savez pas ce que c'est un pionnier, je vous invite à imaginer un homme iranien, par exemple. On va l'appeler Ramin. Et Ramin, il habite en Iran, il vit une vie difficile. Mais un jour, il décide de quitter son pays natal, ainsi que ses frères et sœurs, pour se rendre en Belgique. Il dépense presque tout son argent pour des tickets de bus afin de traverser la Turquie. Il passe à deux doigts de se noyer au bord d'un canot pneumatique lorsqu'il traverse la mer entre la Grèce et l'Italie. Mais après un voyage ardu, il arrive enfin en Belgique. Il arrive à trouver un bon travail dans une société informatique. Il commence une nouvelle vie. Il travaille dur, il commence à gagner de l'argent. Mais sa famille lui manque. Mais après plusieurs mois, il a enfin gagné assez d'argent pour acheter des billets d'avion pour que tous ses frères et sœurs puissent le rejoindre à Bruxelles. Et ce qu'il fait, toute sa famille vient en Belgique. Ramin a tracé le chemin pour que ses frères et sœurs puissent le suivre. Ramin était un pionnier. Donc voilà juste une petite illustration de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est le pionnier qui accomplit le salut pour ses frères et sœurs, les fils et les filles de Dieu. Nous, les êtres humains, nous sommes face à une situation terrible, la mort. Mais en devenant un être humain comme nous, Jésus, il incarne la totalité de l'expérience humaine, y compris la mort. Mais pour la première fois dans l'histoire, il traverse la mort et entre dans la gloire de la résurrection, un endroit où aucun être humain n'est allé auparavant. Jésus est notre frère aîné qui peut nous conduire, nous aussi, à travers la mort et dans la gloire. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 11, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Deuxième petit constat, en tant que véritable être humain, Jésus meurt pour nous délivrer de la peur de la mort. Verset 14, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a partagée aussi, de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait la vie durant l'esclavage. Vous savez que dans la Bible, la mort n'est pas seulement un problème biologique, mais c'est aussi un problème théologique. Dieu a maudit ce monde dans sa colère, ce qui veut dire que les choses ne fonctionnent plus comme elles le devraient. La mort est le grand ennemi de l'humanité, qu'elle survienne par la guerre, la Covid, le suicide. La mort empêche le monde que Dieu a voulu de voir le jour. Et en réalité, avant de devenir enfant de Dieu, nous étions tous esclaves du diable, selon ce verset. Le diable, il exerce le pouvoir de la mort, non pas en décidant comment et quand nous mourons, mais en nous rappelant que nous méritons la mort. Le diable est le grand accusateur. Mais lorsque Jésus meurt, lorsqu'il meurt sur la croix en tant qu'être humain, il rend impuissant celui qui a le pouvoir de la mort, verset 15, et il nous libère. Et comment fait-il cela? Troisième constat, en tant que véritable être humain, Jésus accomplit la propitiation des péchés. Parce que la mort est un problème théologique à cause de notre péché. Dieu a dit que si Adam et Ève mangeaient du fruit, ils mourraient certainement. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque être humain est un rebelle contre Dieu, contre sa parole et mérite la mort. Mais regardons les versets 17 et 18. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation ou la propitiation des péchés du peuple. Est-ce que vous voyez la belle logique de ce chapitre? Jésus est le véritable Adam, le véritable être humain qui ne pèche jamais. Jésus est un être humain comme nous, mais sans péché. Et il vit une vie humaine parfaite. Il meurt comme un être humain à la croix, une mort brutale en tant que notre substitut. Et ainsi, il prend sur lui toute la colère de Dieu que nous méritons, afin que la mort n'ait plus le dernier mot. Et donc, grâce à la mort du Christ, notre destin n'est plus dans la poussière, mais dans la gloire. La gloire de la résurrection que nous avons célébrée la semaine dernière. La gloire du monde à venir, la nouvelle création. Le monde à venir qui existe maintenant grâce à Jésus. Et lorsque nous y réfléchissons, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Verset 5 le dit. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le plan de Dieu pour créer le monde, ce n'était pas que les anges le dirigent. Non, Dieu veut un monde dirigé par les êtres humains. D'abord Jésus, et puis nous, avec Jésus, ses frères et sœurs. D'où venons-nous ? L'humanité a été créée pour diriger la création. Où sommes-nous maintenant ? Jésus est en train de sauver des hommes et des femmes pour diriger une nouvelle création. Et cela nous amène à notre troisième question. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Et ce que j'aimerais faire pour ce troisième point, c'est juste faire ressortir quelques implications de ce que nous avons déjà vu dans le texte, pour que nous comprenions à quel point l'avenir qui nous attend sera juste glorieux, merveilleux. Et comme on a dit au début, le livre d'Hébreux a été écrit pour raviver l'espoir des chrétiens en perte de vitesse. Et donc si les lecteurs de ce livre, et nous aussi, saisissent ce que l'auteur est en train de dire sur Jésus et sur cet avenir, cela va les motiver à persévérer, à courir jusqu'au bout de la vie chrétienne. Nous voulons être comme cette personne qui a gagné les vacances ultimes, mais qui commence à s'y préparer en regardant les photos de la piscine, de l'hôtel, de la plage. Plus nous comprenons à quel point les vacances seront formidables, plus nous serons impatients d'y arriver. Et c'est la même chose pour la nouvelle création. Donc voici encore trois implications qui découlent des vérités que nous venons de voir dans ce texte par rapport à la nouvelle création à venir. La première chose à dire, c'est que la nouvelle création sera un lieu physique. Elle sera un lieu physique. Hébreux 2 traite en grande partie de l'humanité de Jésus. Ça, c'est le thème majeur de ce chapitre. Jésus est le véritable Adam, Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Et grâce au Nouveau Testament, nous avons pensé à ça la semaine dernière, nous savons que lorsque Jésus est monté au ciel, il ne s'est pas débarrassé de son corps humain. Non, Jésus est éternellement un être humain physique. Il reste un être humain. Et cela implique donc que le monde à venir, dont Jésus est le roi, doit être physique aussi. Les corps humains sont faits pour vivre dans des lieux physiques. Et cela implique aussi qu'il doit y avoir une certaine continuité entre ce monde-ci et le suivant. Je vous suggère qu'il est légitime d'imaginer que la nouvelle création contiendra beaucoup de choses que nous apprécions ici-bas. Je vous propose qu'il est légitime d'imaginer que la nouvelle création aura des plages, des couchers de soleil, des promenades en forêt, du foot, des fleurs, des glaces, des instruments de musique, des canapés, des avions, des tableaux, la course, la respiration, le rire et d'innombrables d'autres choses. Sauf que chacune d'entre elles sera infiniment meilleure et ne s'abîmera jamais. Ça, c'est l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Alors, le monde à venir n'est pas simplement le prix de consolation pour la vie dont nous jouissons maintenant. Je pense que la plupart des religions de ce monde envisagent l'avenir un peu comme ça. Mais non, la nouvelle création dans la Bible, c'est la restauration, l'amplification de tout ce que Genèse 1 devait être. Les chrétiens parlent souvent de l'idée d'aller au ciel, Mais cela peut sous-entendre que la réalité qui nous attend est une réalité sur les nuages qui ne correspond pas du tout à ce que nous vivons ici-bas. Mais non, ce n'est pas ça. Selon la Bible, l'espérance chrétienne est plutôt l'attente du jour où nous recevrons un corps de résurrection, un corps ressuscité, pour habiter non pas le ciel, mais la terre céleste qui descendra du ciel, comme Apocalypse 21, verset 2 nous dit. Non, la nouvelle création sera un lieu physique, parce que le roi de la nouvelle création est un être humain physique. Deuxième chose, la nouvelle création sera un lieu où l'humanité régnera. On va voir ça en quelques étapes. Hébreux 2 nous explique que Jésus-Christ règne maintenant et pour toujours dans la gloire. Verset 5 encore, en effet, ce n'est pas à l'autorité des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Donc, Jésus-Christ est le roi de toute la terre, celui qui domine toutes choses maintenant par sa puissance. Rien ne peut changer le fait que Dieu a soumis le monde à venir à Christ. C'est un fait accompli. Et Jésus apporte, il a déjà apporté la victoire définitive sur le péché et sur la mort, même si nous ne voyons pas encore de nos yeux. Et en réalité, Jésus commence à exercer son règne en nous dès le moment de notre conversion. Est-ce que vous savez que les deux seules fois où le Nouveau Testament emploie l'expression « nouvelle création », ce n'est pas simplement pour parler du monde physique à venir, mais aussi pour parler de nous, des chrétiens. Je vous donne un verset en 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est littéralement nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Grâce à l'évangile de Christ, Dieu, par son Saint-Esprit, est en train de restaurer notre vie si nous croyons en Christ, si nous sommes en Christ. Ta vie chrétienne, aussi imparfaite qu'elle puisse te paraître, est une image de ce que Jésus fera un jour dans l'univers tout entier. Ce que Jésus fait en toi, dans le tout petit, en détruisant l'emprise du péché, il le fera un jour dans l'immense, pour l'univers tout entier. Et donc nous sommes déjà maintenant des bénéficiaires du règne victorieux de Jésus, si nous croyons en lui. Mais un jour, lorsque Jésus reviendra, nous participerons à son règne pour toujours. La Bible nous donne très peu d'indices sur ce que ça pourrait être, ce règne. Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Apocalypse 22, verset 5 nous dit « Il n'y aura plus de nuit, ils auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. » Je pense que nous pouvons imaginer, envisager que le travail continuera dans une certaine mesure, dans la nouvelle création. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, dans le monde à venir, le péché ne sera plus. La mort aura disparu. Tout fonctionnera vraiment. Mon ordinateur ne plantera pas. Le métro ne sera jamais perturbé. Les fleurs dans mon jardin ne seront pas mangées par des insectes. Et les gens s'épanouiront vraiment. Il n'y aura plus de rage au volant. Les amitiés seront toujours harmonieuses. Personne ne sera frustré par son travail, par les autres. Et la chose qui fait que la nouvelle création sera véritablement glorieuse, c'est que Dieu lui-même sera là. Nous verrons le grand roi face à face pour toujours. Donc la nouvelle création sera un lieu où l'humanité régnera avec Dieu, avec Jésus-Christ, le grand roi. Et puis la dernière chose à voir, c'est que nous allons vers le monde à venir, qui est déjà là, en quelque sorte. Une chose que la COVID m'a appris, c'est que nous n'avons pas toujours ce que nous voulons, ce que nous aimerions avoir dans cette vie. Je me souviens qu'au début du confinement, du premier confinement en 2020, je ne pouvais plus acheter ce que je voulais. Il n'y avait plus de papier toilette, plus de pâtes, plus de, je sais pas, plus de farine au supermarché. Et on peut subtilement commencer à avoir cette mentalité dans la vie chrétienne. Je ne sais pas, pour vous, avez-vous l'impression qu'il vous manque quelque chose dans cette vie? Peut-être que vous êtes déçu de ne pas avoir atteint vos objectifs au cours des dernières années. Peut-être que vous en voulez à Dieu de ne vous a pas avoir permis de rester célibataire au lieu de vous donner un conjoint. Peut-être que vous vous demandez pourquoi la maladie vous a privé d'opportunités dans cette vie. Verset 5 encore. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir. Le monde à venir est déjà là. Aujourd'hui, en ce moment même, le 16 avril 2023, Dieu a soumis au passé le monde à venir. Rien ne peut enlever Jésus de son trône. Implication, bah, rien ne peut nous empêcher, vous et moi, de rejoindre Jésus dans le monde à venir, lorsque nous mourrons, lorsque Jésus reviendra. La nouvelle création est une réalité qui existe déjà, car elle est soumise à Jésus, le pionnier de notre salut, qui s'assied sur le trône. Mon avenir est lié à Jésus, car il est mon frère aîné. Là où Jésus est, je suis. Et là où Jésus est allé, je le suivrai un jour. Mais la nouvelle création est une réalité qui n'existe pas encore. Verset 8. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Je vis encore dans un monde déchu. Je suis fatigué. Je suis déçu. Je suis triste. Je suis découragé. Alors les théologiens parlent de la nouvelle création en termes du déjà et du pas encore. Ce langage, ça vient du verset 8. Maintenant, déjà, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Donc l'espérance chrétienne, c'est un peu comme deux lignes parallèles qui se rejoignent à l'horizon. Et le chrétien attend le jour où le déjà, pardon, le pas encore devient déjà, où la foi devient la vue. Ça, c'est notre espérance. Donc, je ne sais pas comment la vie se passe pour vous sous le point bleu pâle aujourd'hui. J'imagine que la plupart d'entre nous souffrent pour une raison ou une autre. La maladie, la dépression, les tensions familiales, l'ennui au travail, le stress. Et donc, pour terminer, j'aimerais juste attirer votre attention sur le verset 1 du chapitre 3. Qui prépare la suite de ce livre. Verset 1 du chapitre 3. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus. Voici l'exhortation qui termine notre passage. Gardez les regards fixés sur Jésus. C'est qui Jésus? Il est le Fils. Et selon Hébreux, le Fils est l'héritier de toutes choses. Le Fils est le propriétaire légitime de chaque galaxie, de chaque planète, de chaque être humain, de chaque particule d'air que vous respirez. Ils lui reviennent tous de droit. Mais ce Fils est devenu un être humain pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Et donc, dans un sens, tout ce qui revient de droit à Jésus est aussi de droit à nous. Si vous appartenez à Christ aujourd'hui, la nouvelle création est à vous, maintenant et pour toujours. Le Fils s'est déjà assis sur le trône. Vous n'avez pas besoin de tout avoir dans cette vie. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir très peu dans cette vie, mais si vous avez le Fils, vous avez tout. Vous avez tout. Et ce Fils, Jésus, il nous parle, il nous adresse de par cet appel céleste à le suivre jusqu'au jour où nous entrerons dans la nouvelle création, dans un monde à venir où nous connaîtrons une joie inégalée et sans fin avec lui. Je vous invite à prier. « Notre Père, combien nous te louons pour ta bonté immense envers nous. Nous te louons et nous te remercions d'avoir choisi de créer un monde si beau et de nous y avoir placés pour être des rois et des reines sous ton autorité bienveillante. Merci d'avoir envoyé ton Fils dans ce monde pour nous aider face au péché horrible, pour nous aider face à la mort, face au jugement éternel que nous méritons. Et notre Dieu, nous avons besoin de toi pour comprendre à quel point notre éternité dépend de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Et nous voulons te demander de nous aider à saisir les vérités que nous avons vues ce matin, afin que nous puissions courir avec persévérance jusqu'à ce que nous arrivions dans la nouvelle création. Donc fixe nos yeux sur ce monde à venir, nous t'en prions, et donne-nous une vision encore plus grande de ce qui nous attend à l'avenir, où nous régnerons avec toi dans la gloire pour l'éternité. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.